l'atelier du pouvoir.
Il est très important que l'exercice du pouvoir politique se voit interrogé par des gens qui posent la question, mais qu'est-ce qui vous légitime ?
Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue.
Je rêve tout simplement d'un pays ambitieux.
La France.
Dont tous les habitants redécouvrent le sens du dialogue.
C'est pas la gauche.
Pourquoi pas de la fête ?
La France.
Et de la liberté.
C'est pas la droite. La France.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, tonight is your answer.
La politique dans une démocratie, c'est l'honnêteté et le respect de l'autre. La fin ne saurait en aucun cas justifier les moyens.
L'atelier du pouvoir, Vincent Martini, Thomas Vider.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Vincent Martini.
Bonjour Thomas Vider, bonjour à tous.
Bienvenue dans ce nouvel Atelier du Pouvoir, l'émission qui chaque samedi de 12h50 à 13h30 sur France Culture vous propose un autre regard sur la politique, non pas pour en commenter l'actualité la plus brûlante, mais plutôt pour en comprendre les rouages, les rituels et les pratiques qui la structurent, ainsi que les institutions et les personnalités qui l'animent. Alors c'est une émission un peu particulière que celle d'aujourd'hui, puisqu'il ne sera pas question de la France, mais d'un autre pays, un pays très voisin du nôtre, l'Italie. L'Italie qui a fêté avant-hier une date importante de son histoire politique, puisque c'est le 2 juin 1946 que par référendum, les Italiens ont décidé à une majorité à l'époque d'environ 55% que leur État serait désormais une république et non plus une monarchie. Alors évidemment, il ne s'agit pas ici de retracer l'histoire de ces 7 décennies qui nous séparent de ce scrutin fondateur, mais de nous demander, 70 ans plus tard et à la veille d'élections municipales qui seront très importantes, et avec nos, à nos côtés dans ce studio, un ancien président du Conseil italien, Enrico Letta, ce qu'il en est de la vie politique italienne d'aujourd'hui et de la façon dont ce pays est gouverné, mon cher Vincent.
Le système politique italien peut parfois faire figure en France de contre-modèle. Celui d'un pays au bicaméralisme instable, largement divisé entre le Nord et le Sud, dont certains gouvernements ont entretenu des liens avec la mafia, un régime longtemps dominé par Silvio Berlusconi, dont le nom a donné naissance à une tendance qu'on peut assimiler sans hésiter au pire en politique. Mais on aurait tort de se limiter à ces stéréotypes. L'Italie constitue depuis les débuts de la République en 1946 un laboratoire politique fascinant. Celui d'un pays largement décentralisé, donnant à ses provinces un pouvoir fort et autonome, un système parlementaire strict, méfiant vis-à-vis d'un pouvoir exécutif trop fort, un pays enfin qui cultive une conception exigeante de la démocratie avec l'un des systèmes de primaire les plus développés au monde, ou encore une véritable politique de référendum à tous les niveaux de décision. Depuis près de 2 ans, l'actuel président du Conseil italien, l'équivalent de notre Premier ministre, Matteo Renzi, a lancé une réforme constitutionnelle très importante, Italicum, afin de corriger certains des dysfonctionnements du système politique transalpin et de lui assurer notamment une plus grande stabilité. Cet enjeu est de taille pour permettre d'autres réformes actuellement bloquées par la complexité du jeu politique et le discrédit des formations traditionnelles. Les élections municipales, dont le premier tour se tient demain, le dimanche 5 juin, dans 1300 communes italiennes, dont Rome, Milan, Naples, Turin ou Bologne, entre autres, traduisent cet enjeu brûlant du renouvellement de la vie politique, alors qu'un populisme qui va des néofascistes de Lega Nord au mouvement 5 étoiles dirigé par l'ancien humoriste Beppe Grillo progresse rapidement. Alors, quels sont les lieux de pouvoir en Italie? Comment a évolué la vie politique dans ce pays depuis la chute de la démocratie chrétienne? Matteo Renzi peut-il réussir son pari, rendre l'Italie plus stable et plus facile à diriger? Ces questions, nous les posons aujourd'hui à nos invités, et notamment Enrico Letta, le prédécesseur de Matteo Renzi à la présidence du Conseil, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous dans ce nouvel atelier du pouvoir consacré à l'Italie.
Enrico Letta, qui par ailleurs est à Paris en ce moment, puisque depuis, il est depuis un peu plus d'un an, doyen de l'École des affaires internationales de Sciences Po, et à ses côtés, l'un des meilleurs spécialistes français de l'Italie contemporaine, Marc Lazare, directeur du Centre d'Histoire de Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages, dont 2 qui portent des titres qui font directement écho, je dirais, à notre émission d'aujourd'hui. L'Italie à la dérive, c'était en 2006, et L'Italie sur le fil du rasoir, en 2009, tous deux publiés aux éditions Perrin.
Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Viminale ore 18:30. I corrispondenti dei giornali di tutto il mondo sono raccolti intorno al tavolo donde il ministro Romita diffonde per radio l'annunzio semiufficiale. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio. Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio. Oggi il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Cerimonia breve, austera. Due contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica. L'Italia è Repubblica.
L'Italia è Repubblica, l'Italia est une République. Bonjour Enrico Letta.
Bonjour,
bienvenue, à vous tous. Bienvenue dans cette émission, bienvenue sur France Culture. C'était il y a 70 ans jour pour jour. Pour un Italien, c'est une date importante, cette date de juin 1946. Quelle place elle occupe dans la mythologie nationale?
Bah, naturellement, c'est la fête de la République. Donc, c'est la fête d'une Italie qui a commencé à être une République et qui a commencé à chercher de naître à nouveau après tout ce qui s'était passé avec le fascisme. Donc, 70 ans qui ont été une longue période avec des grands changements dans lesquels on peut voir des continuités, mais dans lesquels aujourd'hui je crois que le panorama qu'on a devant nous est complètement différent de toute l'histoire qu'on a vécue auparavant.
Alors vous faites partie de cette longue lignée de présidents, d'anciens présidents du Conseil de la République italienne. C'était en 2013-2014, c'est bien ça, hein, pendant un petit peu moins d'un an. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que les Français imaginent le président du Conseil italien un peu comme l'équivalent du Premier ministre, mais dans un pays où le président de la République, lui, n'a pas beaucoup de pouvoir. Vous pouvez nous dire ce que c'est exactement d'être président du Conseil italien
et... On est dans un système, le système italien est complètement différent du système français. C'est un système qui est né exactement d'une certaine façon à cause de la dictature qu'on a eue. Et la constitution qui a été créée de 46 à 48 a créé un système obligatoirement polycentrique. C'est-à-dire qu'on voulait éviter qu'il y ait un pouvoir qui puisse devenir plus important des autres. C'est pour ça qu'on a eu deux chambres, donc deux parlements pratiquement, à égalité de pouvoir, tous les deux qui donnent le vote de confiance au gouvernement avec les problèmes qu'on a vus et qui ont été à la base de la naissance d'un gouvernement de grande coalition comme celui que j'ai dû former. D'un autre côté, un président de la République qui est un pouvoir important en Italie, parce que c'est un pouvoir...
Plus qu'on croit alors, peut-être.
Je parlerai d'accordéon, c'est-à-dire un pouvoir qui devient étroit quand la politique est forte, mais qui s'étend d'une façon incroyablement large quand la politique est faible. Une cour constitutionnelle, j'ajoute, qui est assez plus importante que le Conseil constitutionnel français, des régions qui ont plus de pouvoir que les régions françaises. Donc, un système dans lequel on voulait éviter qu'il ait un pouvoir plus fort que les autres.
Marc Lazare, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Quand on entend Enrico Letta nous parler du système politique italien, on se rend compte que peut-être la comparaison qu'on fait habituellement entre le système politique italien et la 4e République en France est un peu erronée, en tout cas excessive. Est-ce que vous êtes d'accord?
Et surtout trop franco-centré. Et donc je crois que la démarche, c'est d'essayer de comprendre effectivement la logique à la fois des constituants et des responsables politiques. Et à ce qu'a dit le président Letta, je rajouterai un élément. C'est-à-dire ni la démocratie chrétienne en 1946, qui était le premier parti, ni les partis de gauche à l'époque socialiste et communiste, voulaient à tout prix éviter que l'un ait plus de pouvoir que l'autre. Donc ils avaient intérêt à avoir ce système des deux chambres. Et c'est vrai que c'est une démocratie qui est souvent très mal considérée du côté français, parce qu'elle est associée à cette république mal aimée de la 4e, justement, république. Et c'est d'ailleurs assez divertissant quand on voit les télégrammes de nos ambassadeurs qui sont maintenant ouverts aux historiens et qui disent en permanence, surtout à partir de 1958, quand la 5e république est créée, bah c'est très simple, en Italie, ils n'ont qu'à faire comme nous, parce que jusqu'ici, ils sont incapables de prendre des décisions. Or, le paradoxe italien, à mon sens, c'est qu'effectivement, c'est un système très complexe, c'est une démocratie parlementaire et ça c'est très important, ça nous demande à nous Français un effort de compréhension très important parce qu'il y a des majorités, il y a des transfuges, il y a les jeux parlementaires et en même temps c'est une démocratie qu'on a souvent considérée faible mais qui s'est révélée forte et notamment, moi j'insiste beaucoup sur cet exemple, durant les années de plomb. C'est-à-dire durant les années 70, plus de 400 morts pour raisons politiques, une vague de terrorisme rouge et noir, et cette Italie a résisté, et les Italiens ont défendu leurs institutions.
Enrico Letta, vous qui avez été président du Conseil, vous diriez que le siège du pouvoir en Italie, du pouvoir politique, il est à la présidence du Conseil, ou le président du Conseil est un des acteurs, mais il y en a d'autres aussi, voire plus importants que lui?
Mais écoutez, on est exactement dans le sujet, parce que aujourd'hui, la discussion sur le changement de système politique italien est une discussion qui est exactement sur ce point-là. C'est-à-dire qu'on a vécu un système dans lequel le pouvoir était diffusé. Et le pays est un pays qui vit et a vécu avec un système de consensus pour trouver des et pour partager des grandes décisions, parce que il y avait un système de pouvoir diffusé. C'est ce que Marc Lazare disait, et c'est très efficace ce qu'il a dit. Le point est, est-ce que ce système de pouvoir diffusé peut devenir moderne dans les temps d'aujourd'hui, dans lesquels les décisions doivent être rapides, il y a une personnalisation et tout ça? Alors là, la réponse de Renzi, aujourd'hui, est une réponse de grande personnalisation. Les réformes institutionnelles qu'il propose vont transformer l'Italie, si elle passe, dans un pays plus proche de la France, de ce qu'il a jamais été.
Pour que nos auditeurs comprennent bien exactement le pouvoir du président du Conseil, actuellement, en tout cas à l'époque où vous étiez vous président du Conseil, en quoi il consiste ce pouvoir? Par rapport à l'évolution du rôle que souhaite lui accorder Matteo Renzi, quel était votre rôle traditionnel du président du Conseil?
Le rôle du président du Conseil italien était toujours un rôle, premièrement, de tenir ensemble une coalition. Parce que ça, c'est le point essentiel. C'est-à-dire, en Italie, il y a toujours eu des gouvernements de coalition. Alors, là, c'est un des points. Est-ce que les coalitions, c'est une chose moderne? Est-ce que ça interprète la modernité? Ou c'est mieux de dire un gagne et celui qui gagne gouverne? Alors, moi, je pense que l'idée de simplifier de tout et de donner tout le pouvoir à un seul, c'est une idée qui ne marche pas. Et je le dis en regardant aussi le système français.
Alors justement, on va donner la parole juste après à Marc Lazare et discuter cette réforme constitutionnelle qui travaille aujourd'hui les Italiens, puisque le vote aura lieu au mois d'octobre, donc d'ici quelques mois. Mais avant cela, je vous propose d'écouter l'actuel président du Conseil italien, Matteo Renzi. Il était l'invité d'Anne Sinclair sur Europe 1 il y a un peu plus d'un an.
Je pense qu'après 20 ans, dans lesquels les Italiens ont entendu un changement radical qui n'est pas arrivé. Aujourd'hui, je ne suis pas la cause de ces changements. Je suis l'effet de ces changements. Et j'ai gagné avec mon parti les résultats les plus incroyables dans les dernières 56 ans. Je pense que j'ai deux alternatives. La première, c'est être très content de dire tout le monde, j'ai pris les 40,8% et me promener avec beaucoup de fierté. La deuxième, c'est faire la seule chose que je peux faire. Choisir d'utiliser ces résultats pour aller dans la discussion politique et changer vraiment l'Italie. Celui-ci, c'est mon message. Nous allons changer l'Italie parce que c'est la seule possibilité pour l'Italie d'avoir un futur. Toutes les choses que j'ai promis, toutes les choses ont été commencées dans les âmes parlementaires. Mais je pense qu'aujourd'hui, la réforme institutionnelle, c'est la première réforme économique en Italie. Parce qu'en Italie, nous avons un problème. Le premier problème, c'est la nécessité de la simplification du système politique, la réduction du pouvoir de la bureaucratie, la simplification du système de justice civile. Ces décisions sont les premières réformes économiques.
Alors, en écoutant Matteo Renzi, on voit bien qu'il y a deux, vous appartenez quand même à la même famille politique, Enrico Letta et Matteo Renzi, mais on voit qu'il y a deux perspectives différentes, hein, de façon différente d'aborder cette réforme institutionnelle. Vous disiez il y a un instant, Enrico Letta, plutôt une personnalisation du pouvoir. Quand on écoute Matteo Renzi, en tout cas l'argument qu'il donne, c'est plus de simplification, plus d'efficacité. Marc Lazare, quel regard vous portez sur cette réforme en cours?
Je crois que c'est une réforme très importante et qui divise profondément l'Italie. On a un débat extraordinairement vif entre les partisans de la réforme de Renzi et les opposants de la réforme de Renzi. Ça divise par exemple les professeurs de droit constitutionnel, pétition contre pétition. Il y a un affrontement très important parce qu'effectivement la réforme est une réforme de nature historique.
Donc redites-nous, c'est d'abord sur le Sénat,
alors,
que ça porte,
alors,
sur
attention,
le bicamérisme.
Attention à ce dont on parle, c'est une réforme visant à réformer le Sénat. Le Sénat est composé de 315 15 sénateurs, plus les sénateurs à vie, c'est-à-dire qui sont nommés par le président de la République et qui ont cette fonction. Par exemple, Mario Monti a été nommé sénateur à vie par l'ancien président de la République, Giorgio Napolitano, et il avait un pouvoir équivalent à celui de la Chambre des députés. Et il est élu, le Sénat, au suffrage universel, mais avec une différence, parce qu'il faut être un peu plus âgé que l'électeur moyen de la Chambre des députés. Le même pouvoir, ça voulait dire que le président du Conseil obtienne la confiance des deux chambres et que les textes passent d'une assemblée à l'autre. Et donc, c'est une procédure très lourde. Ça correspondait, encore une fois, à ce que l'on a rappelé avec Enrico Letta, c'est-à-dire à cette volonté de ne pas reproduire les conditions qui auraient permis à un Mussolini de revenir au pouvoir après plus de 20 années de fascisme, à cause de la méfiance réciproque de la démocratie chrétienne et puis du Parti communiste italien et accessoirement du Parti socialiste, parce qu'il y avait une culture de la médiation très importante, c'est ce que Enrico Letta appelait la culture du consensus, moi je préfère appeler recourir à la notion italienne d'ailleurs de médiation, pour des raisons très faciles à comprendre, c'est-à-dire qu'il y avait des profondes divisions politiques et donc on avait cette culture.
Et donc l'idée c'est de le réduire à 100 membres.
Oui, et l'idée c'est effectivement de sortir de ce système-là, de réduire le Sénat à 100 membres, 95 qui seront élus par les conseils régionaux et qui sont des conseillers régionaux et des maires sans indemnité parlementaire. Et ces sénateurs auront un pouvoir beaucoup plus réduit. C'est la fin du bicaméralisme intégral tel qu'on l'appelle en France. Et par exemple, le nouveau président du conseil, si jamais cette réforme est adoptée par référendum, n'aura pas besoin d'obtenir la confiance des deux chambres.
Et puis il y aura aussi d'autres réformes comme la prime des 40% par exemple.
Ça c'est la loi électorale qui n'est pas soumise au référendum. Hein. Attention, la loi électorale n'est pas soumise au référendum. Le référendum porte sur la réforme institutionnelle.
Enrico Letta, est-ce que vous soutenez ce référendum ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Ou est-ce que vous êtes plutôt critique de cette réforme proposée ?
Il faut séparer deux choses. C'est très important pour faire comprendre aux gens. Il y a la réforme constitutionnelle qui est celle sur laquelle il va y avoir le référendum. C'est la réforme qui change le Sénat. Et d'autres petites choses, mais la question essentielle est la réduction du Sénat à un rôle mineur. Deuxième grande question, c'est la loi électorale. Ce n'est pas une loi qui est dans la Constitution, donc c'est une loi plus simple à être adoptée. L'actuelle majorité a choisi une loi électorale qui est très différente de toutes les autres qu'on a eues jusqu'à maintenant. Alors, le point essentiel est les deux choses ensemble, parce que sinon c'est très difficile à comprendre. La loi électorale, c'est l'italicum. La réforme constitutionnelle, c'est pas l'italicum. La réforme constitutionnelle, c'est la réforme du Sénat. L'italicum, c'est la loi électorale. Ma position personnelle, moi, je vais soutenir le référendum pour faire passer la réforme du Sénat. Parce que moi, j'ai toujours pensé, et mon gouvernement avait commencé le processus avec le ministre des réformes, Quagliariello, de réforme du Sénat, parce que deux chambres, avec le même pouvoir, ça n'existe dans aucun pays du monde. Je suis contre l'actuelle loi électorale. Pourquoi ? Ça a été le dernier vote que j'ai donné au Parlement avant de démissionner pour venir à Paris, à Sciences Po. Je suis contre parce que c'est une loi électorale qui va créer un système absolument semblable au système français, mais avec la différence que ce n'est pas le président de la République, comme on l'élit en France, avec un ballottage au deuxième tour en France. En Italie, on va élire, on va donner la majorité de la seule chambre qui donne la confiance au gouvernement avec un vote au ballottage. Donc, dans un système dans lequel, ça c'est le point essentiel, vous allez créer d'une façon artificielle, et ça c'est ma critique au système français aujourd'hui, un système pour lequel vous donnez tout le pouvoir à une personne qui, au premier tour, représente aujourd'hui le 25, 22, 24, 28% et qui se trouve avoir une prime énorme au deuxième tour qui lui donne un pouvoir pour 5 ans. Alors, moi, je pense que ce système, en France, commence à démontrer toute sa difficulté. Et je ne voudrais pas l'importer aujourd'hui en Italie.
Alors là, on a parlé du pouvoir central, bien entendu, et des réformes, des lois électorales et de la réforme constitutionnelle, mais il y a aussi un rapport centre-périphérie qui nous dit quelque chose de l'Italie. Et puisqu'on s'intéresse dans cet atelier du pouvoir à l'organisation du pouvoir en Italie, voilà, il fallait qu'on parle de cette question. Alors Marc Lazare, Quand on parle de ce rapport centre-périphérie, est-ce qu'on pourrait dire que l'Italie est beaucoup plus décentralisée que la France?
Oui, ça, incontestablement. Et attention, c'est pas immédiat à partir de 1946, parce que la caractéristique de cette constitution italienne, c'est qu'elle n'est pas achevée totalement et que donc elle va avoir plusieurs dates importantes. La Cour constitutionnelle est créée au milieu des années 50, dont vous parliez, Enrico Letta, et les régions prennent véritablement leur envol à partir des années 70.
Alors, quelle différence avec la France, par exemple?
Elles ont un pouvoir considérable, elles ont un pouvoir beaucoup plus important. Il y a eu un système véritablement avec des autonomies régionales. La région dont Enrico Letta est originaire, par exemple la Toscane, a un pouvoir très important. Je vais vous donner un petit exemple très pratique. Elle a adopté une loi pour organiser les primaires, par exemple, parmi ses nombreux pouvoirs. Et donc, incontestablement, c'est un pays qui a des traditions, comme on le sait, historiques, importantes, avec des caractéristiques locales fortes. Et donc, on a voulu donner en Italie ces contre-pouvoirs régionaux. Il me semble, cela dit, mais ça c'est une question que je me permettrai de poser à Enrico Letta, qu'après avoir beaucoup joué sur l'idée de la fédération, du fédéralisme, du renforcement des régions, on assiste depuis quelques années à un retour à un pouvoir centralisateur. Et la question d'ailleurs que je me pose, c'est quelles sont les raisons de ce retour à une forme de centralisation? J'ai eu, moi, mon hypothèse, c'est qu'il y a eu une sorte de maquis législatif et administratif tel qu'on a du mal à identifier véritablement où se trouve le pouvoir et que la tentation depuis quelques années, je ne crois pas que c'est lié uniquement au président du Conseil actuel, ça avait commencé depuis quelques années auparavant, ça semble être renforcé actuellement vers une centralisation du pouvoir, un retour à une forme de centralisation.
Bon, écoutez, je pense que là on entre vraiment dans la caractéristique du pays, parce que de mon expérience, l'Italie a une grande limite qui est celle d'être le pays de la pendule.
Donc, c'est-à-dire
on va d'un extrême et on passe à l'autre extrême. Alors, Marc Lazare, vous avez cité le fédéralisme, et c'est exactement ça. On était un pays dans lequel la situation dans les années 50, 60, 70 était très centralisée. Tout le pouvoir était à Rome, mais dans un pays qui n'est pas la France. Dans la France, Paris, c'est Paris. En Italie, Rome, c'est pas le centre de tout. Si vous voyez, il y a un tas d'exemples qu'on pourrait faire sur la grande... Mais c'est l'histoire de l'Italie qui est comme ça. Mais le point essentiel que je voulais citer, c'est que avec la réforme de 2001, on est passé à un fédéralisme formel du type allemand. Presque.
Qui était dû, excusez-moi de vous interrompre, à la pression de la Ligue du Nord.
Voilà, hein. C'était le moment politique dans lequel il y avait la Ligue Nord. Et on est passé donc dans une situation centralisée à une situation de décentralisation extrême, excessive.
Et là, on est en train de bâton.
Voilà, on est en train de remettre les choses. Alors, mon point, c'est que la pendule, le jeu de la pendule, c'est la même chose qu'on est en train de faire sur le reste, sur la loi électorale. C'est-à-dire, on était dans une situation dans laquelle tout était trop fragmenté. Maintenant, on veut tout centraliser. Mais on passe d'un extrême à l'autre. On va tout centraliser dans une personne qui n'est pas le président de la République. Et j'ajoute, cette personne, à différence de la France, je cite ce point qui est important. En France, vous avez un système qui donne le pouvoir à une personne. Vous l'élisez, cette personne, une fois chaque cinq années. Mais en France, vous avez une conventio ad excludendum, comme on dit en latin. C'est-à-dire, vous avez une convention politique dans le système pour laquelle, au moins jusqu'à maintenant, ce président ne peut qu'être quelqu'un qui vient de la droite républicaine ou de la gauche républicaine. Il n'y aura jamais, selon ce système, un président qui sort du populisme et qui devient, pour cinq ans, ceux qui ont en main tous les clés. En Italie, c'est différent. La situation qu'on est en train d'avoir maintenant, situation dans laquelle, vraiment, vous pouvez avoir au ballottage un président, un premier ministre. Il peut être issu du Parti démocrate comme Matteo Renzi. Et moi, le Parti démocrate, c'est le mien, donc je serai content. Mais vous pouvez aussi donner tous les clés en main du candidat issu du mouvement 5 étoiles. Alors moi je pense, ou bien de la Lega Nord. Alors moi je pense, si je reviens au passé, Berlusconi a été limité parce que la France, l'Italie n'était pas la France et ne donnait pas les pouvoirs tous à une personne. Imaginez-vous ce que serait devenu l'Italie si Berlusconi avait eu les pouvoirs qu'on veut donner aujourd'hui au Premier ministre. Ça aurait été un désastre.
Marc Lazare, d'un mot.
Alors ça, je crois que c'est effectivement très intéressant parce que dans l'argumentation d'Enrico Letta, on voit ce que j'appellerais le syndrome de l'inquiétude sur la conscience démocratique des Italiens. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant et c'est mon point de désaccord avec vous, cher Enrico Letta. Parce que je crois qu'effectivement, il y a l'ombre derrière de Mussolini, il y a l'ombre derrière de Silvio Berlusconi, il y a l'ombre derrière de Bettino Craxi, et il y a l'idée, les Italiens sont capables, effectivement, d'envoyer au Palazzo Chigi, c'est-à-dire l'équivalent de Matignon, quelqu'un qui serait l'émanation du mouvement 5 étoiles. Et vous ne faites pas assez confiance à la conscience démocratique des Italiens et au progrès de la démocratie.
Enrico Letta,
non, ma réaction est très simple. Moi, je pense que les Italiens, démocratiquement, vont décider. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait un système sans contre-pouvoir. Parce que l'expérience de Berlusconi nous dit que, en Italie, avec l'émotion des Italiens, il faut des contre-pouvoirs parce que sinon le système ne marche pas. Avec Berlusconi, on a eu ces contre-pouvoirs. Ils ont été le président de la République, les deux chambres et toute une série de choses qui ont bloqué et ont évité le désastre. Je crains qu'avec tous ces changements, on ne va plus avoir les contre-pouvoirs qui peuvent éviter.
Alors justement, on va parler du rôle de Silvio Berlusconi, mais surtout de l'émergence des populismes du Sud, ou ce qu'on appelle le post-berlusconisme. Mais avant cela, on aimerait vous faire écouter un grand spécialiste de communication politique, Carlo Freccero. C'était le 21 avril 2006 dans l'émission Le Premier Pouvoir sur France Culture.
Nous sommes à la fin des années 70 et l'Italie était en train de perdre son identité politique. Les grands partis politiques, les grands récits politiques, les partis communistes, la démocratie chrétienne commençaient à entrer dans la crise. Et Berlusconi a donné une autre identité à l'audience profonde. L'audience profonde, c'est comme la périphérie d'une grande ville. Et vous savez très bien que c'est le centre qui identifie la ville. Dans le centre, que on trouve naturellement les repères historiques, les symboles, les monuments, les institutions. Et c'est dans les centres qu'il y a l'opinion leader. Très bien. Et les soirs, les centres brillent des lumières, des vies. Mais c'est suffisant, c'est éloigné du centre pour voir ces lumières s'affaiblir. Et les lumières jaunes de la rue, peu à peu, laissent voir la lumière de la télé. Et naturellement, c'est la lumière de la télé qui a donné une nouvelle identité à un peuple, à une audience qui avait perdu toute leur identité politique. Il a remplacé la démocratie chrétienne et naturellement les partis communistes. C'est une lecture un peu peut-être métaphorique, mais c'est la vérité. Les grands récits étaient morts, lui a remplacé tout.
Carlo Freccero, qui était le 21 avril 2006, l'invité de l'émission Le Premier Pouvoir sur France Culture. Ce qui est intéressant dans ce que dit cet ancien conseiller de Berlusconi pour l'audiovisuel, c'est que d'une certaine façon, le berlusconisme a accouché d'une nouvelle identité politique en Italie. Marc Lazare, depuis que Berlusconi a quitté le pouvoir, en quoi vit-on dans le post-berlusconisme et en quoi la vie politique italienne aujourd'hui porte encore l'empreinte de cet homme qui l'a exercé longtemps, le pouvoir?
Ah mais ça a été une révolution. Avec Berlusconi, la révolution de la communication.
Qu'en reste-t-il aujourd'hui ?
Et c'est l'instauration de ce que l'on retrouve dans beaucoup de pays européens et au-delà de l'Europe, c'est-à-dire de la démocratie du leader, la démocratie de l'opinion. Et de ce point de vue-là, oui, Matteo Renzi est le produit de Silvio Berlusconi, en se situant sur le centre-gauche. Mais il en est l'émanation, avec une différence, c'est que lui, il n'est pas simplement avec la télévision, il est avec les réseaux sociaux.
Est-ce que vous diriez, Enrico Letta, que à la fois Matteo Renzi, mais aussi l'émergence des mouvements populistes, tout ça, c'est le produit du Berlusconi?
Je pense que ça, c'est excessif. Je suis d'accord avec ce que Marc Lazare vient de dire, mais j'ajoute qu'il y a eu une deuxième césure importante, c'est-à-dire il y a eu un clivage dans lequel l'Italie a été à l'avant-garde, comme beaucoup de fois ça arrive, c'est-à-dire l'antipolitique. Et c'est un système qui a explosé il y a 3, 4 ans, 5 ans, en Italie, avant que dans le reste de l'Europe. Aujourd'hui, c'est la clé pour comprendre toute compétition électorale.
Qu'est-ce que vous appelez l'antipolitique exactement ?
Antipolitique, c'est l'application d'une idée pour laquelle les médiations entre le citoyen et les lieux où la politique décide, ce sont des médiations inutiles qui créent des problèmes et dans lesquels il y a la corruption. Alors les partis et tout le reste. Cette désintermédiation est naturellement le résultat de l'Internet, des réseaux sociaux, et c'est une désintermédiation qui crée la transparence totale, qui donne l'idée à chaque citoyen d'être dans le pouvoir, parce qu'il peut dialoguer avec son leader directement, sans la médiation du chef du parti local ou d'autres choses. Et c'est le clivage people against establishment qui est la question clé pour comprendre Trump aussi. Parce
mais là, que sinon... vous visez Enrico Letta directement Matteo Renzi avec son art du Twitter, de la communication extrêmement efficace. C'est à ça que vous faites référence?
Non, je fais référence surtout au mouvement 5 étoiles. Parce que là, la question est clé, c'est-à-dire qu'on n'a pas très bien compris la révolution que ce mouvement a portée en Italie. C'est-à-dire qu'en 2013, de rien, ils sont passés à 25% des voix sans dépenser 1 euro. Alors ça, c'est le point essentiel, de comprendre que la mobilité de l'électorat aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé en Espagne avec Podemos et Ciudadanos, c'est ce qui a amené dans d'autres pays des résultats inattendus, c'est ce qui a donné à Trump aujourd'hui la force que Trump a, qu'on se disait il y a un an, exactement un an, c'est une blague. Maintenant, il peut devenir président des États-Unis.
Alors c'est intéressant de parler du mouvement 5 étoiles, parce que souvent, vu de France, quand on parle de populisme italien, on s'intéresse surtout au populisme néo-fasciste. Et puis il y a ce nouveau parti qui émerge, le mouvement 5 étoiles. Alors Marc Lazare, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que vous êtes d'accord? Ça ressemble à ce que est Trump aux États-Unis, ou est-ce que c'est plus proche de Podemos? On a du mal à le situer politiquement, ce mouvement.
Et à juste raison, parce que c'est inclassable par rapport à tous les autres mouvements qu'on appelle, pour aller vite, populistes. Parce qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension dans les revendications et dans les propositions de moins 5 étoiles quasiment de gauche classique, hein, sur le revenu minimum de citoyenneté, par exemple, sur l'augmentation des salaires minimums.
Sur TTIP.
Oui.
Le traité transatlantique.
Il y a absolument. Il y a des revendications, on va dire, de gauche postmoderne sur l'écologie, l'eau, l'environnement, qui sont très importants. Et on a des propositions qui sont à la limite de l'extrême droite sur les questions de l'immigration. Hein. Et donc, ça canalise un électorat très important qui est de la protestation générale, en particulier venu un tiers de la gauche, un tiers de la droite et un tiers d'abstentionnistes. Et c'est un mouvement qui donc ramasse large, un parti attrape-tout en quelque sorte, et qui effectivement se revendique comme un parti très démocratique, ou plus exactement un mouvement démocratique par l'intermédiaire des réseaux sociaux, alors qu'à l'intérieur, la dictature est redoutable puisque le moindre opposant se fait immédiatement exclure.
Alors parlons de celle dont on parle hein, aujourd'hui, qui est celle qui pourrait remporter les élections à Rome, Virginia Raggi, du mouvement 5 étoiles. Pourquoi dans une ville comme Rome, aux élections de demain, une femme comme celle-là, dont on sait qu'une des revendications est de rejeter la candidature de Rome aux Jeux Olympiques de 2024, pourquoi est-ce que c'est si populaire? Qu'est-ce qui se passe dans une ville qu'on n'imaginerait pas forcément céder à ce genre de populisme, Enrico Letta?
Et probablement, c'est les Français qui l'appuient pour donner plus de chance à Paris comme candidate aux Jeux Olympiques de 24. Bon, c'est une blague, mais je pense que on peut pas comprendre ce qui est en train de se passer si on ne part pas par le refus. Alors ça, c'est le résultat du refus. Refus de la politique, de la classe politique, des politiciens, des lieux du pouvoir, puisqu'on est là à discuter du pouvoir. Et on est dans une situation dans laquelle ce refus est important et il peut amener des candidats du 5 étoiles.
Mais cette femme, par exemple, qui est-elle? Elle était connue depuis longtemps des Romains? Elle a émergé
avocate, quasiment sans expérience politique. Elle a même travaillé à un moment donné avec les gens de Berlusconi.
Oui, mais la question est le refus. C'est-à-dire que ce n'est pas une question en positif, c'est une question
de l'adhésion.
Refus.
Oui.
Mais voilà. Est-ce que ça veut dire que, finalement, les grands partis que vous représentez aussi, le Parti démocrate, ce qu'a été la démocratie chrétienne pendant une très longue période, tous ces partis sont en train de disparaître, c'est ça? C'est la fin des grands partis en Italie, l'émergence de ces mouvements-là?
C'est déjà fini, hein. Ça fait beaucoup de temps que c'est terminé. La question essentielle est que on est dans une transition dans laquelle on a de la difficulté à trouver les formes dans lesquelles les partis politiques et la politique s'organisent. On a eu les primaires, ça a été une très belle nouveauté et ça a cherché de faire renouveler les choses. Donc c'est quelque chose de positif. Mais pour le reste, aujourd'hui, on n'a plus de partis. On n'a plus de partis qui soient en condition de créer ce lien entre les électeurs et le pouvoir. Et dans cette absence de partis, c'est une situation de grande difficulté, le refus. Et donc les mouvements comme le 5 étoiles ont une grande force.
Et vous avez le sentiment, par exemple, que le mouvement 5 étoiles pourrait gagner des élections générales. Il est en capacité de le faire aujourd'hui ?
Moi, je pense que là aussi, on est comme Trump il y a un an. Je ne peux pas faire une similitude entre Trump et les 5 étoiles. C'est totalement différent. Mais il y a un an, on aurait dû, c'est une blague, que Trump devienne même le nominé du Parti républicain. Maintenant, on parle de lui comme président. Alors, pour le 5 étoiles, c'est totalement différent de Trump. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est dans les choses possible. Voilà.
Marc Lazare. Je suis entièrement d'accord. Quand on voit les sondages, d'ailleurs, juste avant de venir, j'en voyais un, et on voit que le Parti démocrate a un ou deux points d'avance par rapport au mouvement 5 étoiles, et donc ça veut dire qu'il ne gagnerait pas si la nouvelle loi électorale est appliquée à l'issue de la réforme constitutionnelle, si elle est approuvée à l'issue du référendum. On pourrait très bien avoir un deuxième tour où le mouvement 5 étoiles l'emporte. Oui, en Italie, on pourrait avoir un président du Conseil issu du mouvement 5 étoiles.
Alors justement, vous
dites d'ailleurs, excusez-moi, une des limites de Matteo Renzi, incontestable, parce que dans son rôle de dirigeant du Parti démocrate et de chef de gouvernement, dans sa personnalisation de la politique, l'une de ses idées, par y compris son type d'attitude qu'on peut qualifier de populisto-centriste, si vous voulez, l'idée était d'affaiblir le mouvement 5 étoiles. Et ça, il n'y arrive pas pour le moment. C'est une de ses grandes, grandes limites et ça peut être à l'origine d'un échec redoutable pour lui et donc pour le Parti démocrate.
Et dans le même temps, on a le sentiment qu'il est un peu moins populaire que quand il est arrivé au pouvoir aujourd'hui.
Ah oui, mais ça, et après deux années d'exercice du pouvoir, évidemment, je crois que c'est inéluctable. Et je pense qu'un certain président de la République, d'une certaine République, aimerait bien encore être en tête de toutes les intentions de vote parce qu'il a une grande chance pour le moment. Il n'a pas de rival, ni véritablement à l'intérieur de son parti, ni à l'extérieur. Donc pour le moment, il est encore devant. Mais c'est vrai que à l'issue, par exemple, de sa législature, si la législature va jusqu'au bout, c'est-à-dire en 2018, il n'est pas certain qu'il pourrait l'emporter pour les raisons indiquées par Enrico Letta.
Enrico Letta, pour vous, le pronostic du prochaine majorité en Italie, vous voyez les choses comment pour vous?
Ça dépend de deux grandes questions.
Est-ce que le facteur économique est très important?
Oui, ça dépend de deux grandes questions. Les deux grandes questions aujourd'hui, c'est l'économie et les migrations. Alors, si on donne, mais ça c'est pas seulement l'Italie, au niveau européen, des réponses qui fassent baisser le chômage, c'est une chose que j'ai déjà entendue en France, et donc ça se passe mieux, et donc les choses changent, et donc il y a un petit espoir, et donc la croissance, et d'un autre côté, si la question migratoire est gérée, et on donne l'idée qu'elle soit gérée, alors sur ces deux questions, je pense que le pays peut trouver une continuité avec une gestion qui a été celle autour du Parti démocrate.
Marc Lazare, Enrico Letta dit l'immigration, l'économie, c'est ça les deux grands enjeux des prochaines années. Pour conclure cette émission, à votre sens, est-ce que c'est vraiment en effet les deux grandes questions? Est-ce qu'il y en a d'autres?
Oui, la question européenne. La question européenne, parce que l'une des grandes caractéristiques de l'histoire de l'Italie de ces dernières années, c'est que ce pays qui était le plus europhile est devenu un pays plus eurosceptique que la France. Quand on voit les enquêtes eurobaromètres, plus eurosceptique que la France.
Près de 50% des Italiens qui sont prêts à quitter l'Union européenne.
Considérable. Et en 2013, lors des élections, vous aviez trois formations qui ont fait une campagne contre l'Europe, ce qui est la première fois comme ressource politique fondamentale, c'est-à-dire Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, la Ligue Nord de Matteo Salvini et le mouvement 5 étoiles. Et donc la question européenne sera, comme dans beaucoup d'autres pays, une des questions qui clive la politique et qui sera, d'après moi, un des enjeux fondamentaux en plus de la question de l'économie et des migrations, sachant que les trois sont étroitement imbriquées l'une à l'autre.
Enrico Letta, dernière question. Quand on a été ministre de Massimo D'Alema, quand on a été président du Conseil, qu'on est aujourd'hui de l'autre côté des Alpes, ça vous démange pas la politique italienne? Vous n'avez pas envie d'y retourner à un moment donné?
Bon, écoutez, je continue à suivre et je suis très engagé dans beaucoup de questions, éducation, formation, l'engagement européen. Mais j'ai fait un choix et le choix, c'est aussi fils de la réflexion qu'on a fait sur l'antipolitique, la fin. Je me suis dit que la fin de la politique traditionnelle, c'est la fin des politiciens de profession, c'est-à-dire des gens qui ne font que ça dans leur vie. Et je me suis dit que après 16 ans de vie de politique dans le Parlement, dans les ministères et même à la présidence du Conseil, il fallait que je donne aussi un exemple, l'exemple de dire on peut terminer et on peut arrêter toutes sortes de vies parlementaires et d'être engagé comme citoyen dans la politique sans toucher un euro de salaire et gagner sa vie
donc
faisant
pour vous,
notre travail.
La politique active, c'est fini.
La politique dans les partis, la représentation, les candidatures, oui. L'engagement en tant que citoyen, ce n'est qu'un début.
Longue vie à vous. Merci, merci à tous les deux d'avoir participé à cet atelier du pouvoir. Merci beaucoup Enrico Letta, merci Marc Lazare, c'était un plaisir de vous recevoir. C'est la fin de cet atelier du pouvoir, une émission de Vincent Martini et Thomas Vider, réalisée par Doria Zénine et à la technique aujourd'hui Jean-Louis Delongue. Vous pouvez nous réécouter sur franceculture.fr, nous suivre sur Facebook, la page de l'atelier du pouvoir, mais également sur Twitter. Et oui, on vit avec le temps présent, Enrico Letta, Twitter, @atelierpouvoir. La semaine prochaine, mon cher Vincent, 12h50, nous nous retrouvons pour parler de quoi ?
Eh bien, nous parlerons de l'imaginaire politique de Jean-Marie Le Pen avec, en personne, le président d'honneur du Front National.
À la semaine prochaine, donc, pour un nouvel atelier du pouvoir. Dans un instant, c'est la suite dans les idées avec Sylvain Bourmeau. Très bon week-end à tous sur France Culture. Thank you.